Monsieur Gordon, vous dirigez un centre de documentation de SF, de science-fiction. D'abord, première question, quid de ce centre de documentation? Je suis un étudiant, j'ai envie de faire un travail. Vais-je trouver porte ouverte chez vous? Allez-vous m'aider à trouver tel ou tel ouvrage, à me communiquer tel ou tel article? Que vais-je trouver chez vous?
Un petit rectificatif, il s'agit d'un centre de documentation de l'étrange en général, entre autres de science-fiction bien sûr. Le but est effectivement de dépanner notamment l'étudiant, que ce soit pour un travail de maturité, surtout disons à un niveau universitaire. J'essaye principalement d'aiguiller le lecteur vers les documents accessibles. C'est-à-dire que je sais qu'un document existe, par exemple à propos d'un thème ou d'un auteur, et je m'évertue à signaler à l'intéressé où il est accessible, ce qui me semble fondamental. Le centre de documentation en question est un centre privé qui ne bénéficie absolument d'aucune subvention. Habituellement, nous traitons par courrier parce que nous n'avons pas la possibilité d'accueillir à l'improviste des gens chez nous, mais sur rendez-vous, il est tout à fait possible de venir consulter les documents qu'on souhaite. Souvent, les personnes nous écrivent et sont contentes du service rendu par lettre, ce qui est déjà pas mal, ou bien certains viennent me trouver, je travaille à la Bibliothèque Royale entre autres, là-bas, et j'essaie de faire le débroussaillement. Mais le centre en question est strictement privé, n'a rien à voir avec l'institution elle-même.
Et est-ce qu'on peut vous joindre par téléphone, ou y a-t-il une adresse, si on a besoin de l'un ou l'autre renseignement
que ce... Oui, je crois que le plus simple est de me contacter, souvent ce n'est pas urgent, à ma boîte postale, la boîte postale 33 à Uccle 4, 1180 Bruxelles. Alors, je répète, donc Bernard Gordon, boîte postale 33, Uccle 4, 1180 Bruxelles.
Pour tous les renseignements concernant l'étrange et la science-fiction. On parlait tout à l'heure de la science-fiction considérée par certains, il y a de cela très peu de temps, comme un genre littéraire marginal. Depuis, bien d'eau a coulé sous les ponts, des universitaires s'intéressent maintenant à la science-fiction. On parlait tout à l'heure du cours d'un prof universitaire de l'ULB, on s'intéresse à la science-fiction. Donc, nombre d'écrits se sont disponibles. Est-ce qu'il y a une évolution de la mentalité du lecteur ou de ceux qui influencent le lecteur, ou bien la science-fiction est un genre littéraire majeur qui devait nécessairement un jour ou l'autre s'imposer?
Je pense que la science-fiction est le genre littéraire par excellence qui qualifiera au moins la seconde partie du XXe siècle, dans la mesure où c'est une littérature qui touche à vraiment toutes les disciplines des sciences humaines ou autres. Bon, on en trouve de la science-fiction qui traite de linguistique, de sociologie, qui traite mais vraiment de tous les domaines que vous pouvez imaginer. Et je crois que le succès de la science-fiction vient du fait que tous les gens, quel que soit leur centre d'intérêt, trouvent dans la science-fiction des œuvres qui correspondent à leur goût personnel. Je dirais à la limite qu'il y a des science-fictions. Et surtout pas en rester aux préjugés antiques. La science-fiction, c'est les petits bonhommes verts et les soucoupes volantes. Absolument pas. Je crois que la science-fiction aussi attire de plus en plus de gens parce que c'est une littérature où l'humour est omniprésent. C'est une dimension, évidemment, qui intéresse au plus haut point les gens, voulant, comme je l'ai dit, échapper aux problèmes de la réalité parfois. Mais la réalité et la fiction se rejoignent dans la science-fiction. Je le répète et j'insiste pour souvent trouver des solutions, apporter des solutions à des problèmes.
La science-fiction existe bel et bien chez nous. Depuis juillet 1974, vous représentez le club national belge de SF auprès du comité européen de SF. Un comité européen de SF qui organise tous les deux ans une convention européenne de SF. Essayez de nous expliquer un peu tous ces termes.
Oui, il existe donc, du fait de l'omniprésence de la science-fiction, entre autres en Europe, une organisation internationale qui s'est structurée, qui comprend des membres de tous les pays européens, tant de l'Est que de l'Ouest. Du côté des pays de l'Est, il s'agit d'écrivains mandatés par l'Union des écrivains. Dans les pays de l'Ouest, ce sont des gens qui sont démocratiquement élus par les amateurs de science-fiction qu'on appelle les fans habituellement. Il se fait que en Belgique, du côté francophone, j'avais été élu. Et c'est ce comité européen, outre des contacts internationaux, organise ce que vous avez appelé effectivement la convention tous les deux ans. Et la convention me semble un lieu de rencontre particulièrement intéressant. Genre de rencontre que je n'ai jamais rencontré, enfin si je puis dire, je n'ai jamais trouvé ce genre de manifestation dans un autre genre littéraire. Les conventions de science-fiction voient la rencontre entre un écrivain aussi connu soit-il, avec le plus simple de ses lecteurs qui peut l'aborder et le mettre. Je veux souligner par exemple Van Vogt qui en 78 était venu à la convention que j'organisais à Bruxelles. Et bien Van Vogt, le pape de la science-fiction, n'hésitait pas à parler avec tout lecteur et je trouve ça très sympathique. Il est très rare qu'un Goncourt ou qu'un autre écrivain accepte ne fût-ce que dans une foire de livres, de discuter avec un lecteur, peut-être quand le lecteur veut lui faire dédicacer quelque chose, mais c'est beaucoup plus... C'est différent comme ambiance. Il y a vraiment un contact direct individuel entre l'écrivain et le lecteur de science-fiction.
Sans oublier le dessinateur, si je me rappelle un peu votre atelier d'Auderghem, où nombre de dessinateurs belges et étrangers très célèbres sont venus à Auderghem et ont pu rencontrer les enfants.
Oui, entre autres à Auderghem, et nous avions entre 1974 et 1978 à la bibliothèque communale Luc, un centre d'ateliers créatifs, où nous avons développé, encouragé, disons, des talents de jeunes belges ou autres, tant au niveau de l'illustration qu'au niveau de l'expression théâtrale, etc. Bon, c'est au-delà du centre de documentation, au-delà de la littérature elle-même, il y a toujours tout un courant qui se développe autour de, entre autres, de la science-fiction.
Vous êtes toujours intéressé pour essayer de faire rencontrer l'écrivain et le lecteur. Dans un premier temps, vous êtes également intéressé à aider les jeunes auteurs à être publiés. Qu'en est-il exactement maintenant ?
C'est-à-dire que à l'époque où on faisait des ateliers créatifs, il y avait un atelier de création littéraire et on a rassemblé au sein d'une anthologie de science-fiction belge des textes de jeunes auteurs belges à l'époque. C'est un instrument de travail qu'on envoie dans tous les pays du monde, mais de temps en temps encore actuellement, fort de l'expérience antérieure, j'ai des jeunes auteurs qui m'envoient des manuscrits, me demandent des conseils à propos du style, j'en corrige parfois, évidemment je suis fort chargé de travail, mais j'essaie surtout de les conseiller et de les aiguiller vers l'un ou l'autre petit éditeur, notamment en France, puisqu'en Belgique malheureusement les débouchés sont rares. Mais j'essaye d'aider ou de conseiller les jeunes, sans être auteur moi-même, mais j'ai une expérience assez longue du style, à mesure où j'ai traduit tout de même une quarantaine d'ouvrages en français, j'ai été lecteur chez Marabout, et étant critique, j'ai tout de même une certaine connaissance de la langue française et du style, et je peux, je pense, conseiller des jeunes les aider.
À propos de conventions européennes de SF, rappelons qu'elles se sont tenues en Italie, en Pologne, à Bruxelles, et que cette année, la convention européenne de SF aura lieu en Angleterre. L'ombre d'Orwell sera présente, et c'est à cette occasion, je crois, que les Anglais ont insisté pour que telle manifestation ait lieu dans leur pays.
Oui, c'est-à-dire que les Anglais, qui ont une science-fiction, comme on l'a signalé tout au début de l'émission, très intéressante, étaient malheureusement fort liés avec l'Amérique du Nord. Ils avaient tendance à vivre un peu en protectionniste et on leur a un peu forcé la main en leur disant « Mais enfin, vous avez la science-fiction européenne la plus connue. » Et ça n'a pas été si spontané que cela, le choix de l'Angleterre. Il y avait des réticences du côté anglais, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et l'argument que 1984 c'était Orwell et qu'il fallait rendre hommage à Orwell l'a emporté et ils sont décidés à organiser la convention le week-end de Pâques à Brighton.
Je rappelle, Monsieur Gordon, que vous éditez la revue Idées et Autres, une maison d'édition Recto Verso. Idées et Autres, une anthologie permanente des plurilittératures du monde. Cette revue fête un anniversaire assez important cette année.
Oui, je dirais que nous avons évolué plus ou moins en collection artisanale, je préfère cette expression-là, et nous fêtons effectivement notre 10e anniversaire. 10 ans d'existence, ça peut paraître dérisoire, mais c'est énorme. Nous avons publié en 10 ans 40 volumes.
Avec toutes les difficultés financières que ça
suppose. Oui, bien sûr. Nous n'avons aucune subvention. Les tirages ont varié entre 50 et 1500 exemplaires. Et le travail qui est consenti pour un ouvrage de ce genre, parce que nous faisons une sélection de textes, quand nous publions une anthologie sur les 20 textes qui se retrouvent en langue française, c'est le résultat en fait de la distillation de parfois plusieurs centaines de textes. Nous avons fait une sélection très rigoureuse et le travail qui est consenti est le même travail que l'on consent pour la production d'un ouvrage dans une grande maison d'édition française par exemple, où ils ont les moyens de tirer ça à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui n'est pas notre cas.
Après une bouffée musicale, nous allons parler du contenu de la revue, je rappelle Idées et Autres, et également de la littérature de science-fiction latino-américaine. Idées et Autres, à un moment donné, on l'a appelé Cahier de la traduction, et puis c'est devenu Anthologie permanente des paralittératures du monde. Née en 1974 à Uccle, elle a toujours essayé de rendre compte des littératures non françaises, non anglo-saxonnes, une pluridisciplinarité, et vous avez également jeter, si j'ose dire, les feux de votre critique et de votre traduction sur la littérature latino-américaine.
Oui, nous sommes beaucoup intéressés à la littérature latino-américaine, ce qu'on nous a d'ailleurs reproché dans certains milieux. Les latino-américains nous donnent l'étiquette des gens de science-fiction, et ceux de science-fiction l'étiquette de latino-américains. C'est une littérature, à mon avis, qui était très méconnue, à part des écrivains comme Borges, parfois Cortázar ou Bioy Casares, on n'en sait rien, et il méritait d'être très connu. Cela dit, nous avons fait un survol rapide d'à peu près toutes les littératures possibles imaginables, du moins quand les langues nous étaient accessibles. Des continents comme l'Afrique et l'Asie ont été un peu négligés, mais là, c'était un problème.
Vous avez dit un jour au cours d'une conférence de presse, vous voyez qu'à Radio Contact, on tient en tout cas des fiches et on se renseigne un peu sur tout. Vous avez dit au cours d'une conférence de presse donnée le samedi 21 août 1976 à Poznan, l'Amérique latine effectue dans le domaine littéraire en général une sorte de travail de synthèse de la pensée orientale pour le monde occidental. Elle joue le rôle de catalyseur entre la pensée orientale et la pensée occidentale. Vous allez même plus loin. Vous dites que les écrivains latino-américains n'ont pas de langue, tradition littéraire, ni de science, ni de technique avancée, et pourtant ils écrivent de la science-fiction.
Oui, c'est exact. Il faut dire que le continent latino-américain, à l'exception des civilisations précolombiennes, est relativement nouveau. Et quand on songe à l'exemple de Borges, qui est un écrivain argentin, mais qui a fait justement un travail de synthèse entre la culture occidentale et la culture orientale, je crois que mes dires de l'époque sont toujours valables. Et effectivement, c'est un continent qui, dans le tiers-monde, essaye de concilier deux types de cultures. Je crois que de ce fait, ces écrivains-là, certains d'entre eux du moins, ont mérité le nom d'écrivain cosmopolite ou à vocation universelle.
Monsieur Bernard Gordon, au-delà et parallèlement à cette littérature latino-américaine, que pouvons-nous trouver dans votre revue Idées et Autres qui fête, je le rappelle, son 10e anniversaire d'existence?
On peut trouver des textes de fiction surtout. Il s'agit soit de recueils consacrés à un auteur, soit d'anthologies consacrées à plusieurs auteurs de beaucoup de pays du monde, mais également des études, notamment sur Harry Dickson ou bien la littérature policière en Belgique, voire le réalisme magique en Amérique latine. On trouve à peu près tous les aspects des littératures imaginaires, également le folklore en Belgique. Le dialogue en Belgique, il y a 2 ans, a eu un succès relatif chez nous. Pour une fois, nous étions prophètes dans notre pays.
Nous avons un grand spécialiste de science-fiction devant nous. Vous avez traduit nombre d'ouvrages, dont Théorie du fantastique de Harry Belvan et SF réalité et psychanalyse d'Eduardo Galigorski pour la partie sociologie, et Marie Langer, je crois qu'on dit Langer, Argentine, pour le côté psychanalyse. Et la SF s'est beaucoup intéressée au sexe. Notamment, on avait dit que la libération de la femme, la libération sexuelle de la femme passe par la SF, libération que la femme avait il y a 15 ou 20 000 ans. Le sexe occupe une place importante dans la SF?
Il ne faut pas non plus exagérer, mais il y a effectivement, comme pour beaucoup de tabous, un intérêt de la science-fiction pour, entre autres, la sexualité.
Voilà, je rappelle, il y a de nombreux écrivains argentins, latino-américains, belges également, et il faut dire que bon, vous représentez le club belge de SF. Dans le temps, il n'y avait pas de problème linguistique. En ce moment, les problèmes linguistiques font que la Belgique a 2 membres représentants de ce club, si je m'en abuse. Et je terminerai en disant que la tétine, et ça c'est la SF qui le dit, est le premier robot de notre vie moderne, en ce sens qu'il isole l'enfant de sa maman.